France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ça fait une semaine qu'en France, nous avons donc désormais 67 millions d'agrégés en droit. Ne me dites pas que ce jugement, Nicolas Sarkozy, n'a pas alimenté vos conversations à la machine à café, vos groupes WhatsApp, vos déjeuners de dimanche. Au milieu de cette conversation, il y a eu, semble-t-il, pas mal de bêtises que tout le monde a pu prononcer ici et là. Sans doute sommes-nous dans ce lot-là également. Le droit, c'est compliqué. Son vocabulaire est inconnu du grand public, exactement ce que notre époque déteste. Des nuances et des complexités telles qu'il faut parfois plus de 400 pages pour les expliquer. Ce soir, nous voudrions donc modestement organiser une sorte de cours de droit, l'association de malfaiteurs et l'exécution provisoire. Vous avez entendu 500 fois ces mots cette semaine, mais savez-vous pourquoi on l'a inventé, l'association de malfaiteurs? Pourquoi elle s'applique dans le cas d'espèce? Pourquoi ça peut faire tiquer, y compris les juristes, comme dans le passé par exemple? Savez-vous avec quels arguments Robert Badinter l'a supprimé presque en arrivant? Avec quels autres Jacques Chirac l'a remise presque en arrivant? Est-ce que la loi est là pour sanctionner des crimes avant qu'ils ne soient commis? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire, cet article de loi? L'exécution provisoire est-elle exceptionnelle? Spoiler alerte, non. Mais comment s'applique-t-elle dans ce cas-là? Et pourquoi on s'en étonne? Comment ces notions-là ont-elles évoluer pour arriver jusqu'au procès Nicolas Sarkozy et aussi d'autres, bien sûr. Avant d'être appliquée, une loi est fabriquée, elle est votée et ça fait parfois du bien de s'en souvenir. Dans le même temps, la petite musique de la justice laxiste pour les petits, impitoyable pour les puissants, elle aussi ressort du bruit médiatique, du bruit politique de cette semaine. Et ça aussi, peut-être que ça mérite qu'on le remette sur la table avec vos questions, mais aussi quelques chiffres. Laissez le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, Michel, c'est vous et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir, merci d'avoir sélectionné ma question. Avant de la poser, elle sera très brève. Je suis à la recherche d'une information que je n'ai pas pu obtenir dans quelques médias que ce soit. C'est à propos de l'affaire Sarkozy. Est-ce que pendant les 12 années ou 13 années de procédure, d'enquête, il a été question de la mort de Kadhafi, l'exécution de Kadhafi. Et est-ce qu'elle a été, elle aurait pu être effectuée par la DGSE pour l'empêcher de parler?
On va répondre à cette question, Charlotte Piré est là pour ça. Mais votre vraie question, si je puis dire, elle dit quoi?
Voilà, à propos de l'exécution provisoire. Alors, moi je ne connais pas grand-chose en droit, mais la différence entre l'association de malfaiteurs pour de simples, enfin simples, des crimes, enfin des délits, par exemple des cambrioleurs, des crimes de sang, association de malfaiteurs toujours, pour des affaires financières comme celles qui nous occupent en ce moment, et puis pour association de malfaiteurs pour terroristes, excusez-moi d'être confus.
Non, je vous en prie, mais je suis vite, je prends des notes pendant que vous parlez.
Et quelles conséquences que ça a en matière d'application immédiate de la peine, voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Si, vous avez été clair, mais et votre confusion, elle vaut le coup aussi, parce que ça dit dans quel bain on est en ce moment. On va essayer de tout remettre en place et tout droit, et je vous remercie beaucoup de cette entrée en matière. Pour discuter ensemble, autour de la table, il y a Karine Bourdier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, vous êtes coprésidente de l'Association des avocats pénalistes, il y a Ludovic Fria, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Union syndicale des magistrats, c'est vous, et Charlotte Piré, journaliste au service enquête justice, police, justice de France Inter, et qui va donc devoir nous expliquer pourquoi, enfin, et très rapidement, pourquoi on entend pas la suite de l'histoire libyenne dans ce procès, mais évidemment que le procès, c'est pas le procès de Nicolas Sarkozy contre l'État libyen, et
non,
encore moins...
Que, voilà. Parce qu'un tribunal, il est saisi de fait sur des dates déterminées, qu'on appelle une période de prévention, et que c'est ça qui a été jugé, et pas le reste. Donc, et parfois, Nicolas Sarkozy lui-même est allé un peu plus loin, parce que ça a fait partie de ses arguments de défense, mais ce n'est pas les questions auxquelles ont répondu le tribunal pour le juger.
Il faut des arguments circonstanciés à la fois dans une affaire judiciaire, y compris jusqu'au juge d'instruction et au-delà. Et pour ce qui concerne l'assassinat ou pas de Kadhafi, on n'en était pas là du tout. Cette parenthèse, elle est fermée. Moi, je trouve intéressant, on va commencer avec vous, Karine Bourdier, je trouve ça vraiment intéressant, la confusion de notre auditeur, en fait. Parce que depuis qu'on entend parler d'associations de malfaiteurs, c'est intéressant qu'il ait confondu crime et délit, parce que précisément, c'était pour les crimes d'abord, et puis c'est passé pour les délits. Est-ce qu'on peut la remettre à plat et expliquer les choses telles qu'elles sont? Si on devait faire une définition qui n'est pas celle du code, mais qui est une définition simple, pardon, je vais quand même vous décrire la tête de notre invité. Oh là là, vous voulez pas la définition du code?
Définition du code, c'est compliqué. Ce que je voudrais dire à ce monsieur que j'entends là, déjà, c'est que il a commencé son propos en disant, moi je connais pas grand chose au droit. Ce que je trouve très intéressant dans la séquence actuelle qui nous occupe là depuis une semaine, c'est que vous n'êtes pas tout seul, monsieur. Je dois bien vous le dire, manifestement, à force de lire des articles et d'entendre nos personnels politiques s'exprimer sur toutes les ondes, on se rend compte que eux non plus ne connaissent pas grand-chose au droit, sur lequel pourtant ils appuient en permanence dans un sens ou dans l'autre. Et là, on voit bien, dans un certain sens, à l'occasion de ce délibéré qui a été rendu. L'association de malfaiteurs, alors c'est une infraction qui est très large, qui est complexe et simple à la fois, c'est-à-dire qui est susceptible de recouvrir beaucoup de situations différentes et qui vise à réprimer l'entente ou le groupement formé en vue de commettre d'autres infractions. C'est-à-dire qu'on est à la phase préalable sur ce qui s'appelle le chemin criminel, pas encore au commencement d'exécution de l'infraction, mais on est à la réunion d'actes préparatoires entre plusieurs personnes, il en faut plusieurs, donc au moins deux, qui vont s'entendre pour fournir un dessin criminel.
Voilà, on n'est pas, j'allais dire, comme je le vois passer sur certains messages, on n'est pas dans Minority Report, où on va chercher quelqu'un avant que le crime ne soit commis, en fait. Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre aller trop vite, donc une espèce d'histoire à la Minority Report, ou ce qu'on prend, ce qu'il doit être caractérisé. Parce que si nous, tous les quatre, là, on a une discussion en se disant, si on allait braquer une banque, ce serait bien, à quel moment on considère que c'est caractérisé et que cette réunion que nous avons là tous les quatre est susceptible de finir devant la loi.
Alors, je vais aussi peut-être passer la parole au magistrat qui est là, juste parce que je ne voudrais pas me priver de la possibilité de plaider certaines choses dans des audiences à venir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, l'association de malfaiteurs, elle demande quand même, elle ne demande pas une seule intention. Elle ne demande pas une discussion de bistrot, elle ne demande pas simplement l'intention à un moment donné d'organiser un projet criminel. Elle demande qu'il y ait des actes matériels qui permettent de caractériser cette entente.
Ludovic Fria, ce que j'ai trouvé intéressant moi depuis une semaine en fait en lisant ça, c'est que on se met à comparer avec ce que font les autres, ce qu'on font par exemple nos voisins, et on sait bien que dans le droit anglo-saxon qu'on voit beaucoup passer ici et là, il y a l'idée de la conspiration. Donc pour qu'il y ait association de malfaiteurs, il faut qu'il y ait une conspiration, pas nous. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans la tête du législateur et nous expliquer pourquoi nous avons considéré nous qu'on n'avait pas besoin de ça en fait?
La tête du législateur, c'est un chemin que je me garderai bien d'emprunter. Ce qui est certain, c'est que cette infraction, elle existe depuis longtemps, hein, puisque le code Napoléon la prévoyait uniquement pour les crimes. Effectivement, elle a été très critiquée, hein, puisqu'elle a été plus ou moins élargie, plus ou moins restreinte. Elle a été supprimée par Badinter, remise en place sous Jacques Chirac. Et c'est une infraction qui est utilisée très souvent, tous les jours dans les juridictions, sur tout un tas, on va dire, de champs délictuels. Souvent, on l'utilise en matière de narcotrafic, hein, mais on peut l'utiliser, je pense, en matière de braquage ou en matière d'enlèvement, toutes ces choses-là. L'idée un peu du législateur, c'est à la fois une infraction obstacle, c'est-à-dire essayer, si possible, d'éviter que l'infraction ne se commette, agir en quelque sorte avant qu'elle se commette, et de plus en plus, d'ailleurs, la demande qui est faite à la justice, c'est d'intervenir le plus tôt possible sur l'infraction.
Mais obstacle aussi au désistement, c'est aussi ce que j'ai entendu cette semaine, j'ai trouvé que l'argument était intéressant. Obstacle au désistement, ça veut dire que, encore une fois, si on a cette réunion tous les quatre, et qu'on va assez loin, mais que finalement on se dit « non, c'est trop dangereux, on n'y va pas ». Tel que je comprends l'association de malfaiteurs, on tombe quand même. Je me trompe ou je me trompe
c'est
ou pas ?
C'est une infraction qu'on appelle une infraction autonome, à savoir effectivement, peu importe que l'infraction envisagée soit réalisée ou non, vous pouvez effectivement être poursuivi pour ce type de fait. De fait, comme en réalité, la plupart du temps, on a derrière cette infraction un commencement d'exécution ou une exécution, parce que cette infraction ne sert pas uniquement en infraction obstacle, en fait, elle cherche à aller chercher, classiquement en matière de narcotrafic par exemple, des têtes de réseau qui se gardent bien de commettre eux-mêmes les actes délictueux, donc qui se contentent finalement de dire à leurs lieutenants, à leurs affidés, vas-y, tu peux y aller, je confirme ton plan.
Est-ce que je peux vous soumettre cette remarque de Pierre-François sur WhatsApp qui dit ceci: dans le procès de Moscou, le procureur Wyszynski a fait condamner à mort des conspirateurs sans qu'aucun début de passage à l'acte n'ait eu lieu. Dans le cas de la condamnation de Nicolas Sarkozy, condamné pour une association de malfaiteurs qui finalement n'aura servi à rien.
Oui, mais le principe, c'est que l'association de malfaiteurs, le fait que la commission de l'infraction se soit effectivement réalisée ensuite, est indifférent à la caractérisation de l'association de malfaiteurs. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Mmh. Et nous, ce qu'on critique très régulièrement, mais pas du tout dans des affaires de ce retentissement-là, ouais. mais dans tous les tribunaux correctionnels de France, qu'on critique quotidiennement, c'est le fait que cette infraction puisse servir à recouvrir des situations dans lesquelles et on a effectivement du mal à accrocher les gens par rapport à la réalisation, à la commission de l'infraction. Mmh. Elle-même, et donc on va les accrocher par la périphérie, mmh. en leur disant en plus, vous étiez en contact avec un tel, vous étiez présent à tel moment, mmh. vous avez assisté à ceci ou à cela, et vous ne pouviez pas ne pas savoir ce qui, je crois l'avoir mmh. lu, est aussi, a aussi été sujet à critique dans le cadre de la décision de la semaine dernière.
C'est effectivement dans les arguments, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas savoir, et c'est comme ça qu'on arrive à constituer effectivement l'association de malfaiteurs, Charlotte Piret.
Oui, et puis ce que disait la confusion de notre auditeur, parce que de fait, elle est très, très intéressante. C'est effectivement, y a une réalité très très large en fait de différents comportements qui peuvent faire qu'on tombe pour association de malfaiteurs. Il y a aussi une réalité dans la répression qui est extrêmement large. Nicolas Sarkozy comparaissait en correctionnel, donc il encourait 10 ans d'emprisonnement pour cette association de malfaiteurs. Il a, je le rappelle, été condamné à 5 ans ferme. Si on passe à l'extrême en termes de gravité, qui est l'association de malfaiteurs terroriste criminelle, la peine désormais encourue depuis juillet 2016, elle est de 30 ans d'emprisonnement. Et de fait, tous les jours, on voit dans les tribunaux, parce que cette association de malfaiteurs, cette infraction, de nombreuses personnes sont condamnées tous les jours au nom de cette infraction, on voit des peines qui peuvent aller d'emprisonnement avec sursis ouais. jusqu'à ces 30 ans-là. Donc la réalité, elle est très 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 vaste.
Et avec une dernière évolution d'ailleurs sur le narcotrafic qui date là de 2025. Donc c'est ça aussi peut-être qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, Ludovic Fria. Une loi est faite pour ça aussi. Une loi, elle bouge avec le temps.
Oui, elle bouge avec le temps. Le législateur, dans les lois récentes sur la lutte contre le narcotrafic, a prévu une association de malfaiteurs mafieuses qui est beaucoup plus large. En fait, on s'inspire de la législation italienne qui a quelques années d'avance par rapport à nous. Mais pour en revenir au procès qui nous occupe aujourd'hui, il faut bien comprendre, ceci étant, que les faits de corruption dans ce dossier-là sont retenus à l'encontre de plusieurs des prévenus. Mmh. Si Nicolas Sarkozy, et il a fait appel, on repart à zéro, mais si Nicolas Sarkozy a été condamné uniquement, entre guillemets, pour action de malfaiteur, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé après. Mmh. Cet action de malfaiteur a eu, on va dire, une application concrète, mmh. puisque au moins deux ou trois des prévenus dans ce dossier-là ont bien été condamnés pour des faits de corruption. Simplement, effectivement, on ne fait pas la preuve dans le dossier que l'argent qui a transité depuis la Libye sur des comptes d'intermédiaires se soit bien retrouvé tel quel dans les comptes de la campagne.
Charlotte, rapidement, puis on retourne au standard.
Oui, d'ailleurs, juste pour compléter, effectivement, dans le jugement de Nicolas Sarkozy, il est clairement indiqué que selon les juges, le pacte corruptif a bien eu lieu. Et c'est uniquement parce que Nicolas Sarkozy n'était pas dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire n'était pas président déjà au moment de la conclusion de ce pacte, qu'il n'est pas condamné pour corruption, mais les éléments de la mise en place de ce pacte corruptif, selon les juges, ils ont été retenus dans le jugement. Donc, de fait, il n'y a pas rien. Il y a le début de quelque chose, en tout cas.
Vous vouliez intervenir, Karine Bourdieu,
juste pour dire que moi, je suis comme tout le monde là, c'est-à-dire que j'entends vraiment beaucoup de choses depuis une semaine. Juste pour dire que si cette séquence peut servir au moins à un moment donné à ça, c'est-à-dire à ce qu'on se penche sur cette infraction et sur ce que certains qualifient d'infraction fourre-tout, d'autres de voitures balais du processus judiciaire, ça me semble tout à fait intéressant parce que c'est effectivement une infraction.
Vous pensez vraiment qu'il faut profiter de ce moment-là pour que ça serve à quelque chose. Profitons-en, on la remet sur le tapis, on la retricote.
Je trouve que plutôt que d'être là et de dire ce qui a été dit parfois, on va y revenir hein, évidemment j'imagine sur la question de la violation ou pas de l'état de droit, des tas de choses qui ont été sorties comme ça dans tous les sens, je pense que si cette séquence pouvait être l'occasion de dézoomer un peu sur la façon dont notre justice fonctionne, sur la façon dont notre justice est méconnue de la part des justiciables et y compris des personnels politiques qui pourtant sont pas seulement ministres, ils ont aussi été députés, ils ont aussi fait voter les lois qui sont ensuite appliquées par les tribunaux. Si cette séquence peut être l'occasion de s'interroger sur le bien fondé d'une infraction dont on a su dans l'histoire contemporaine que pendant 3 ans, elle avait pu disparaître de l'arsenal répressif, oui, ça me semble utile ça.
Donc, pardon, je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que je ne veux pas qu'on y reste, mais je voudrais quand même que vous me disiez une fois pour toutes, est-ce que vous dites il faut l'enlever ou est-ce qu'il faut l'amender? L'association de malfaiteurs.
Alors, tout est possible, là, je suis pas venue avec mon projet dans mon cartable, mais oui, je trouve que c'est une bonne occasion de réfléchir. Nous, en fait, on le fait tous les jours dans les tribunaux en plaidant, de demander au juge de prendre cette infraction avec extrêmement de prudence, parce qu'elle est capable de, parfois d'aboutir à des condamnations dont nous, on estime qu'elles sont injustifiées.
Il y a autre chose que j'ai entendu dans ce que vous nous dites, Karine Bourdier, j'ai entendu la méconnaissance que nous avons tous, j'ai entendu en profiter pour savoir. Moi, je me demande s'il n'y a pas surtout beaucoup d'émotion derrière, et l'émotion et la connaissance, en général, ne font pas bon ménage. Ce sera la suite de notre conversation, entamée par Jérôme. Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir.
On vous écoute.
Donc voilà, j'aurais voulu savoir pourquoi le fait de commenter une décision de justice n'était-il pas un délit, alors que c'est un principe que les politiques s'appliquent volontiers dans certaines circonstances.
Merci beaucoup Jérôme pour votre question. Il y a cette espèce de musique, Ludovic Friat, qui dit qu'on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. En vérité, c'est faux, on a le droit de commenter une décision de justice.
En vérité, je vous le dis, c'est faux. Ce qui est interdit, c'est jeter l'opprobre sur une décision de justice. Heureusement, nous sommes en démocratie à ce jour, et on peut commenter une décision de justice, on peut ne pas être d'accord avec une décision de justice. Il y a deux voies. Il y a la voie de l'appel, qui est la voie normale, et puis effectivement, il y a le débat public qui doit s'instaurer. J'entends ce que dit mon contradicteur, à savoir, c'est peut-être l'occasion, effectivement, pour les politiques de réfléchir sur l'arsenal juridique qui est le nôtre. Moi, je pense que cette infraction est une infraction utile dans bien des cas pour réprimer, on va dire, tout ce qui est une criminalité organisée. Mais peut-être qu'il faut la réformer, peut-être qu'il faut la préciser, mais c'est au législateur de le faire. Moi, en ce qui me concerne, je suis magistrat, je suis juge, j'applique la loi, je l'individualise, mais à aucun moment je ne la fais.
Vous parliez tout à l'heure, Karine Bourdier, donc de méconnaissance. Mais bien sûr, méconnaissance, valeur nulle, n'est censée ignorer la loi. Mais on n'est pas tous non plus dans les petits livres rouges tout le temps. Mais moi, je me demande si c'est pas de toute façon de pire en pire, parce que aujourd'hui, c'est l'émotion qui nous gouverne, parce que c'est par l'émotion qu'on répond aux choses, parce que c'est par un moment politique aussi qu'on répond aux choses. Et au fond, on a aussi l'impression, vous allez me dire si je me trompe, que c'est comme ça qu'on légifère, ou qu'en tout cas qu'on a l'intention de légiférer. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un gros fait divers, à chaque fois qu'il y a des affaires de ce genre-là. Est-ce que c'est plus le cas aujourd'hui, dans notre époque aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est de pire en pire, Karine Bourdier?
Moi, je trouve, ça fait 25 ans que j'exerce, je trouve que c'est un processus qui s'amplifie de plus en plus au fil des années, vraiment. Et effectivement, ce théorème un fait divers, une proposition de loi, c'est quelque chose, mais dont, par exemple, monsieur l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était tout à fait friand. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que c'est aussi... Là, on est quand même... Moi, je suis stupéfaite, en fait, parce que j'entends... On a évidemment le droit de contester une décision du justice, par les voies de recours qui s'exercent et par le débat public qui s'instaure. Mais ce qui est vrai, c'est que j'entends des choses être dites comme il s'agit là de toutes les règles de l'état de droit ont été violées, etc. Des choses comme ça. Bon, mais je tombe un peu des nues quand j'entends des choses comme ça qui correspondent, qui à mon sens sont complètement contredites par la façon dont cette affaire a été menée et par la façon dont ce jugement est rédigé et a été rendu en salle d'audience. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, y compris les plus hautes personnalités de l'État, et y compris ceux qui ont occupé des fonctions de ministre de l'Intérieur et de président de la République, tombent de leur chaise quand tout à coup on leur explique le fonctionnement de l'association de malfaiteurs et d'un mandat de dépôt à effet différé. Et ça, permettez-moi de trouver que c'est pas du tout rassurant sur la sécurité juridique dans laquelle on évolue. Et donc je ne m'étonne pas, évidemment, que dans ce cas-là, je vous rejoins, on ne fonctionne en réalité depuis des années et des années qu'à coup d'émotion, c'est-à-dire un fait divers, une proposition de loi qui, en général,
n'aboutit
est quand
pas
même...
ou pas.
Bah, c'est surtout que, en général, les propositions de loi. Là, on est dans un épisode où tout à coup la justice est découverte comme étant beaucoup trop sévère. Mais quand même, en général, le leitmotiv, c'est de dire que la justice est laxiste, que les juges ne font rien, que les gens mettent des années avant d'être incarcérés et que d'ailleurs, en général, ils ne le sont pas. Donc, il faut bien se souvenir que le discours ambiant à chaque fait divers, c'est de dire que la justice ne fait pas son travail parce que elle est laxiste. Bon, Là, aujourd'hui, on est sur un virage à 180 degrés. Mais en fait, tout ça ne fonctionne qu'à coup d'émotion, vous avez raison.
Ça ne fonctionne qu'à coup d'émotion. Et ce qui est terrible, c'est que forcément, contester, c'est faire injure aux victimes. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de cercle vicieux dont il est difficile de sortir, Ludovic Fria, à moins que tout ça ne soit que du vent et qu'au fond, chacune de ces propositions de loi, au final, de toute façon, derrière un fait divers, ne se termine jamais en loi réellement, ne serait-ce que parce que les ministres de la Justice ou autres ne reste pas suffisamment longtemps en ce moment dans un gouvernement.
Ce que je constate, c'est que ça termine souvent en loi, en fait. Mais la difficulté, c'est que la loi, maintenant, est devenue un objet de communication politique. Et ce qui se passe après, finalement, ça intéresse assez peu les politiques. Les moyens d'appliquer la loi, d'appliquer la norme, souvent, ça passe en perte et profit. Donc après, on s'étonne que la loi est peu, mal appliquée. C'est vraiment une difficulté. Ce que je veux dire aussi, c'est que là, on voit bien dans ce type de procès qu'on passe rapidement du champ judiciaire, qui est un champ ritualisé, où les éléments sont échangés, débattus contradictoirement, à un champ médiatique ou politique, où il n'y a plus aucune règle, et où on peut dire n'importe quoi. Là, quasiment, nous sommes tous de choisir, grosso modo, entre les défenseurs de l'état de droit et les défenseurs de la raison d'état, à savoir, il y aurait une raison d'état devant laquelle la justice et la société devraient s'incliner.
Je vous demande de choisir un camp, surtout.
Un peu subjectif, oui, mais enfin, c'est quand même dingue ce qu'on entend. Enfin, quasiment, quand j'entends certains commentateurs, on a l'impression qu'en France, il y a une espèce de politburo judiciaire. Il ne faut pas oublier que la justice ne juge pas un homme et des idées. La justice juge des faits commis par un homme. Il se trouve que cet homme est un politique et forcément, la décision a des conséquences politiques par la même.
Charlotte.
Mais c'est vrai que cet étonnement d'une classe politique, je vais généraliser un petit peu, mais parfois peu étonné, c'est-à-dire que dans les procès qu'on appelle politico-financiers, moi, il m'est arrivé souvent de voir à la barre des prévenus s'étonner de ce qu'est une garde à vue, ce que signifie l'application de la justice qui, en fait, est rendue tous les jours et qui est évidemment critiquable. Il y a une forme de violence là-dedans. On peut estimer que la garde à vue, c'est très compliqué à vivre pour un prévenu, pour un suspect à ce moment-là, quel que soit ce qu'on lui reproche. Mais en fait, il y a une part de cet étonnement pour ceux qui votent les lois et réclament souvent plus de sévérité ou autre, qui parfois peut surprendre un peu quand, pour une fois, ça leur tombe dessus, pour parler un peu vulgaire.
Voici Thomas qui dit qu'il est largué malgré un master en droit, mais qui nous dit qu'il fait du droit public et pas pénal et que donc il a une excuse. Il dit ceci. Pourriez-vous faire un topo sur la base juridique qui motive les juges, notamment concernant l'exécution provisoire et la mise en détention avant appel? Je crois que cette mise en détention avant appel date des lois Perben-Sarkozy. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que vous avez ça en tête? Je ne vais pas vous piéger, Karine Bourdier ou Ludovic Fria.
Non, pas du tout. Non. En fait, le système fait que quand vous avez une condamnation pénale au-delà d'un certain quantum, soit le quantum est faible dans la condamnation, et dans ces cas-là, le tribunal, normalement, a l'obligation d'aménager dès l'origine cette condamnation. Au-delà d'un certain quantum, le tribunal va pouvoir décider de l'application immédiate de cette décision, suivant des critères, en rendant une décision qui va être motivée. Il ne peut pas juste, la Cour de cassation dit que cette décision doit être motivée par rapport à certains critères. Et l'application immédiate de ce qu'on appelle le mandat de dépôt va se faire. Après, depuis quelques années, depuis 2019, une loi a été votée mettant en place ce qu'on appelle un mandat de dépôt à effet différé, qui est là ce qui nous occupe dans le cadre de...
Ça, c'est 2019 ?
Oui.
Ah, c'est intéressant.
Qui prévoit que, en réalité, l'exécution de la peine va être un peu différée dans le temps, de sorte à permettre aux justiciables de s'organiser en fonction de sa situation familiale, professionnelle. Mmh. Et d'ailleurs, dans le jugement qui a été rendu la semaine dernière, le mandat de dépôt à effet différé est motivé par la nécessité pour Nicolas Sarkozy d'organiser sa vie de famille, etc., sa vie professionnelle.
Ouais. Mais c'est intéressant. Est-ce que c'est, à votre avis, parce qu'on a vraiment considéré que c'était d'une terrible... Enfin, c'est terriblement rude de se retrouver, quoi qu'on ait fait, les menottes au poignet, quand
épouvantable.
On comparait libre, parce que ça arrive, il faut que les gens sachent que, bien sûr, qu'on peut comparaître libre, et que à l'énoncé du verdict ou du jugement, on entend arriver les flics derrière et qu'on sait qu'on ne repartira pas, c'est très rude. Est-ce que c'est pour ça, en fait, que depuis 2019, on a inventé le différé ?
Oui, absolument. Enfin, je...
Oui, c'est tout à fait pour ça. L'idée, c'était effectivement d'atténuer la violence objective du mandat de dépôt à l'audience. Et pour des personnes qui, effectivement, ne présentent pas de risque de fuite. Des personnes qui ont toutes les garanties. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ma dépôt classique, il n'y a pas d'exécution provisoire. Ma dépôt classique, il est à effet immédiat. Là, on a effectivement une exécution provisoire uniquement parce que ce mandat de dépôt est à effet différé, c'est-à-dire que la personne a 15 jours, un mois, pour mettre ses affaires en ordre avant de partir en détention. L'idée de cette exécution provisoire, c'est d'éviter quelque part que la personne fasse appel entre la prononcée de la décision et la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, et quelque part échappe à l'application de ce mandat de dépôt voulu par la juridiction au vu de la gravité des faits. Il faut savoir, alors c'est peut-être une ironie d'histoire, vous me direz, que l'élargissement à quasiment toutes les infractions, et notamment aux peines complémentaires de l'exécution provisoire, n'est pas si ancien que ça. Si j'ai bonne mémoire, c'était de 2009, c'était une loi Dati, me semble-t-il.
Sachant que, pardon, pour compléter, non, peut-être juste sur le cas précis de Nicolas Sarkozy, puisque c'est forcément celui que nous avons tous en tête, c'est notamment pour cette volonté de garantir l'effectivité de la peine. C'est ça l'esprit du mandat de dépôt et de l'exécution provisoire en particulier. C'est de rendre effective cette peine tout de suite. On parle de faits qui sont extrêmement anciens, qui plus est. Et donc, c'est au nom de ça que finalement, l'exécution provisoire a été prononcée en ce qui concerne Nicolas Sarkozy.
Et il s'est déjà produit. Si je les retrouve, je les aurai sous la main, mais y compris pour des délits qui sont des délits financiers et autre chose de ce genre, des élus notamment qui ont été...
Patrick Balkany, par exemple, alors, avait été condamné avec un mandat de dépôt à effet immédiat, donc concrètement, la scène que vous décrivez de quelqu'un qui, à la barre, ne repart plus chez lui parce que lui, le tribunal avait estimé
et Balkany,
que,
pour le coup,
que le délit de fuite était trop
important,
il était reparti dans les minutes qui suivaient, ensuite avait été incarcéré.
Ce que je suis en train de chercher, que je ne trouve pas, peu importe, mais c'est arrivé avec certains élus, il est tout à fait possible, et c'est comme ça, de se retrouver dans une situation où on va en prison, effectivement, entre la première instance et l'appel, même si on a réussi un moment à sortir, mais enfin, en tout cas, dans ce laps de temps-là, et en appel, on est relaxé. Ça arrive aussi, parce qu'on entend beaucoup aussi de messages qui nous disent, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, il aura fait de la prison pour rien si il est relaxé en appel. Ça arrive aussi tous les jours, ce genre de cas, Karine Bourdier.
Je vais même vous dire plus. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à 22 000 personnes qui dorment dans les prisons françaises en détention provisoire, qui ne sont même pas passées en jugement et qui n'ont même pas été condamnées une première fois par un tribunal judiciaire de première instance. Donc, oui, bien sûr que ça arrive tous les jours. C'est évidemment d'une très grande violence, mais en fait, là où je trouve que, et j'écoutais l'intervention à votre antenne du président du tribunal judiciaire lundi, qui œuvre pour que la justice soit plus fasse plus œuvre de pédagogie et de clarté vis-à-vis de son fonctionnement et vis-à-vis de ses outils aussi, c'est-à-dire la loi, en fait, rien d'autre que la loi. C'est vrai que, en fait, ce que tout ça raconte, c'est aussi l'espèce d'opacité pour le justiciable sur le fonctionnement judiciaire, mais là, on essayait justement d'être un peu didactique sur la question du mandat de dépôt, à effet différé, de l'exécution provisoire, ce qui recouvre trois situations différentes. Mais en réalité, là, si je vous propose d'ouvrir un code pénal ou un code de procédure pénale, même nous, les professionnels, parfois, on a du mal à s'y retrouver, tellement aujourd'hui, l'arsenal législatif en matière délictuelle et criminelle est complexe, et tellement l'empilement des lois a fait qu'on a même du mal à connaître parfois nous-mêmes la loi de façon certaine.
Et ce que ça nous dit, et je le dis vraiment sans plaisanter, c'est que on devrait tous à un moment, je pense même aux salles de classe, etc., aller dans un tribunal et voir comment ça marche. Je dis ça de manière extrêmement sérieuse,
plus,
hein, et dans un prétoire, et comprendre, voici à quoi sert le monsieur qui est devant, et pourquoi il est habillé comme ça, voilà à quoi servent les six qui sont sur le côté, etc.
D'accord, enfin, il y a à la fois un effort de pédagogie important qui doit être fait, à l'occasion effectivement du délibéré d'affaires qui sont par nature extraordinaires, hein, soit par les faits ou soit par la qualité des personnes qui sont condamnées. Mais il y a aussi effectivement un travail de tous les jours qui doit être fait, alors qu'est fait. Hein, moi, quand je présidais pendant plusieurs années les comparutions immédiates à Bobigny, j'avais souvent des classes d'école qui venaient assister au procès. J'avais aussi ces habitués qu'on rencontre dans tous les tribunaux qui viennent quasiment tous les jours. Mais ce que je dois dire à nos concitoyens, c'est qu'il y a 164 tribunaux en France, 36 6 cours d'appel, les portes sont ouvertes. La plupart des audiences sont des audiences publiques. Venez voir la justice en vrai. Faites-vous votre opinion par vous-même et évitez de réagir, on va dire, un petit peu comme ça, sans vraiment connaître les choses et en écoutant une voix plutôt qu'une autre. Enfin, c'est quand même terrible de se dire que dans notre pays, une bonne partie de nos concitoyens estiment effectivement que la justice peut être une justice politique ou une justice de haine ou une vengeance des juges. Enfin, c'est quand même terriblement, on va dire, humiliant, méprisant pour tous les enquêteurs, pour tous les magistrats qui ont travaillé pendant des années sur ces dossiers, qui ont sorti un jugement très bien écrit, ciselé de 400 pages, de dire, mais en fait, tout ça, c'est du vent, tout ça, c'est de la vengeance, tout ça, c'est de la haine, tout ça, c'est de l'opposition politique.
Alors, il faut dire quand même qu'il y a des efforts qui sont faits. Nous, on le voit notamment de l'autre côté, c'est-à-dire comme chroniqueur judiciaire dans le travail qu'on fait tous les jours pour essayer de faire le pont, justement, entre nos auditeurs à France Inter et ce qui se passe dans les tribunaux. Il y a des efforts qui sont faits, effectivement, de plus en plus. Il y a des explications, de la pédagogie dans le rendu des jugements, le fait d'accueillir des classes avec beaucoup de projets qui existent. Et c'est vrai, malgré tout, il y a encore énormément d'écueils. Il faut aussi le dire, la mécanique et la machine judiciaire, voilà, elle n'ouvre pas si facilement ses portes. Et voilà, c'est aussi l'occasion de dire que sans doute qu'il y a encore un chemin à suivre pour aller vers plus de pédagogie. Et peut-être que cette affaire permettra d'aller dans ce sens-là.
Il nous reste peu de temps, mais on a un peu de temps pour vous. Bernard Rive, bonsoir.
Bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités.
On vous écoute.
Ma question, c'est si je me souviens bien, Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il était en responsabilité, donc voulait supprimer la fonction de juge d'instruction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et donc, vous ne pensez pas, enfin moi je pense peut-être que ce qu'il n'anticipait pas sur les ennuis aujourd'hui, et qu'il était conscient un petit peu, évidemment j'extrapole, mais
oui, un petit
je me pose des questions sur son comportement
un petit peu, si
par
je
rapport
puis me permettre.
À la suppression du juge d'instruction.
En tout cas,
que vous pensez qu'il y a un rapport avec toutes ces affaires?
Est-ce qu'il peut y avoir un rapport dans son idée de... Alors, je ne sais pas si on peut imaginer ce qui se passait dans la tête de Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'on en est surtout de cette idée? Parce qu'effectivement, ça pour le coup, on se souvient bien qu'il y avait eu un moment une idée de tout secouer et de supprimer le juge d'instruction. Il y a eu, il faut deux juges d'instruction. Il y a aussi eu ça à un moment, parce que sur les épaules d'une seule personne, c'est trop lourd sur certaines affaires. Il y avait aussi supprimons le juge d'instruction. Est-ce qu'on en est ?
Ça nous renvoie surtout à un vieux débat. C'est effectivement le lien du ministère public avec le gouvernement. Enfin, si jamais on supprime le juge d'instruction, qui est un juge du siège et un juge par nature indépendant, il faudra bien que les enquêtes soient diligentées par une autorité judiciaire quelconque. C'est-à-dire par le parquet. Alors, non pas que je dise que mes collègues magistrats, car en France on a de la chance, hein, le parquet est composé de magistrats et pas de fonctionnaires, non pas que je dise que les magistrats du parquet ne sont pas indépendants, ils le sont, mais la difficulté néanmoins, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes garanties, notamment de nomination, notamment de sanctions, que les juges du siège. Donc à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes garanties constitutionnelles, statutaires d'indépendance, effectivement, par qui remplacer le juge d'instruction pour mener ces investigations complexes en toute indépendance.
Et c'est pour ça que ça avait été abandonné, j'imagine. Vous étiez trop jeune, Charlotte, pour vous souvenir de ce moment-là.
Vous êtes bien aimable. Non, mais c'est pour compléter quelque chose. C'est que, certes, il y a la question de l'instruction qui a duré ici dans cette affaire moult années, mais ici, on parle de l'issue d'un procès. C'est-à-dire que, pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, il y a trois magistrats du siège qui se sont penchés à la fois pendant des mois d'audience et puis pendant 4 mois de délibéré sur ce qu'ils avaient et dans le dossier et à l'audience pour arriver à leur décision. C'est encore autre chose que la phase d'instruction où on renvoie devant une juridiction. Là, on parle d'un jugement sur lequel trois magistrats, en plus spécialisés dans ces dossiers, se sont penchés.
Quand on dit toujours, parmi les idées reçues, Karine Bourdier, que la justice est trop laxiste, vous l'avez déjà dit, mais on dit surtout qu'elle est beaucoup plus rude avec les cols blancs. Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, justement, ces dernières années, le PNF, il existe depuis 10 ans maintenant. Lors des affaires, il y en a eu 4000 et quelques, hein, parce que ça ne concerne pas uniquement les politiques. Il y a eu des grosses affaires quand même, il y a eu les affaires Fillon, il y a eu tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que depuis quelques années, on a au fond peut-être passé un cap, qu'il y a eu une espèce de tournant qui dit « ces crimes-là, maintenant, ils sont jugés, et vous allez voir comment ça se passe, quels que soient en fait les justiciables ». Est-ce qu'il y a quand même eu un tournant qui dit « c'est plus l'exception, si ça doit être la règle, ça le sera ».
Alors, je pense, oui, et je constate que la France s'est dotée d'outils pour réprimer efficacement un certain nombre d'infractions politico-financières qui auparavant étaient peut-être plus difficiles à débusquer. Mais la justice, elle est dure et elle est violente avec tout le monde. Mmh. Elle est violente et elle est dure depuis celui qui va passer en comparution immédiate à l'issue de 48 heures de garde à vue jusqu'à la Bien décision sûr. Dont on
Mais
parle
c'est un mythe.
Aujourd'hui.
Enfin, il y a vraiment c'est une espèce de double mythe, celui du laxisme oui. d'un côté et de la très grande rudesse de l'autre.
Mais ce qui m'interpelle vraiment beaucoup là dans ce que vous disiez tout à l'heure, si je peux juste vous dire un mot là-dessus, c'est que cette question de savoir si les hommes politiques pris dans la tourmente d'affaires politico-financières étaient en fait la cible de juges vengeurs qui se servaient de leur pouvoir pour se venger de
Je suis un peu d'avoir dit ça.
Non, mais je l'interprète ça, c'est plutôt ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend en filigrane dans le discours qui occupe beaucoup l'espace médiatique aujourd'hui. Je trouve que ça, c'est un discours qui est assez dangereux, parce qu'en fait, venir dire aujourd'hui que toutes les règles de l'état de droit ont été violées, je crois pas que ce soit le cas, je crois pas que le procès pénal ne se soit pas suivi selon les règles, je crois pas que l'infraction pour laquelle il a été condamné n'était pas prévue par le code pénal et que la peine non plus n'était pas prévue, donc je trouve ça un peu dangereux là, vraiment, enfin même très dangereux.
Avec un peu de chance, ce procès aura aussi servi à ça, en fait, parce que si on va trop loin, on se dira bon, il faut se calmer aussi sur l'institution judiciaire. Alors, écoutez, on va rester sur cette note optimiste. J'ai aussi retenu venez voir la justice en marche.
Tous les jours.
Et voilà, et ce sera notre phrase de conclusion. Merci à tous.